Voilà, mais donc, bienvenue à la Guilde de l'Opale Noire. Nous venons de terminer une partie de Hexagone Universe. Donc, je suis Fabrice, j'étais le maître de jeu. Autour de la table, nous avons Théo.
Théo qui a joué Uldar, un extraterrestre qui maîtrise la gravité et le pouvoir de la matière.
Ensuite, nous avons Pierre.
Je jouais un change-forme, un change-visage. Bonjour.
Le troisième participant, est, ou plutôt participante, c'est Laurence.
Moi, je jouais Cassandra, elle a des pouvoirs basés sur le mental.
Ok, et enfin, dernier participant, c'était Thibaut.
Thibaut qui jouait Amanette, une ancienne momie, donc qui a été retrouvée, qui a utilisé essentiellement un pouvoir de persuasion et de suggestion chez les adversaires.
Voilà, donc des personnages assez subtils, en tout cas pour certains d'entre eux. Eh bien, pouvez-vous dire qu'est-ce que vous pensiez finalement des règles du jeu? On va pas parler de l'univers de Hexagone Universe, puisque dans ce cas, j'utilise uniquement les règles du jeu et un univers de mon cru. On va juste parler des règles de ce jeu, parce que ce serait pas très juste de vous faire critiquer un univers de jeu qui n'est pas celui qui est publié. Donc, quels sont les points positifs pour vous, négatifs? Je donnerai mon avis en dernier, je pense que ça me semble plus juste comme ça, en tant que maître de jeu. Donc, Théo.
Je pense que c'est un jeu qui se joue énormément sur la création de personnages, qui prend une place très très importante dans le jeu. Donc il faut faire très attention à la manière dont on conçoit son personnage. Autant sur les points qu'on donne que sur le concept de son personnage. Après, je reste encore un peu mitigé sur sur une partie de la mécanique, dans le fait que je trouve que le jeu a un piège dans la construction de son personnage qui parfois bloque l'utilité ou la façon dont on le joue. Parce que le personnage peut être vraiment très unidirectionnel ou vraiment servir à presque rien, quoi. Ou alors on le bloquer dans des systématiques qui sont dommages, dans lesquelles le joueur ne peut pas évoluer dedans.
On va peut-être rappeler comment les règles fonctionnent en gros. Donc, chaque personnage est défini par trois motivations qui lui donnent un ou deux ou trois points. Il a également des talents qui sont des espèces de compétences et trois pouvoirs. Et quand on veut, enfin, trois pouvoirs minimum, quand on veut lancer un jet, quand on veut faire quelque chose, on doit lancer un certain nombre de dés à six faces qui sont équivalents à notre motivation, notre talent ou notre pouvoir qui sont applicables à la situation. Alors parfois, il n'y a rien qui est applicable. Parfois, il y a juste un talent. Parfois, c'est juste une motivation. Parfois, c'est juste un pouvoir. Parfois, c'est les trois. Ce qui fait qu'un personnage peut lancer entre 1 à 9 dés en fonction des situations. Ok.
Mais après, je trouve que la mécanique, quand elle est bien construite, elle marche très bien. Bon, après, il faut aimer jeter des dés, quoi. Surtout en combat.
C'est clair. Pierre.
Alors, moi, la première motivation qui faisait que je suis venu sur cette table, c'est que je n'avais jamais joué à un jeu de super-héros. Et donc, c'était vraiment la première motivation. Il faut constater que le jeu est très rapide à prendre en main. Il n'y a pas de règles très lourdes ou quoi que ce soit. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est le côté narrativiste où parfois c'est trop intuitif et on cherche une motivation un peu parfois tirée par les cheveux et ça manque un peu d'objectivité. Voilà. En gros, c'est ma principale critique par rapport au jeu.
Oui, c'est clair que en fonction de la motivation qu'on va avoir ou qu'on va vouloir utiliser, enfin, voilà, on va essayer de la tirer dans tous les sens
Oui,
pour que
voilà.
ça fonctionne et que ça rentre dans la situation qui se trouve face à nous. Laurence.
Moi, j'aime bien le système d'initiative avec la répartition. la répartition des petits pions, parce qu'en fait, comme ça, on imagine bien comment va se passer le tour. Et je trouve que ça renforce un peu l'esprit d'équipe, parce qu'on doit se répartir, enfin, le leader répartit les points d'initiative. Et j'aime bien ce côté coopératif.
Oui, donc ça, c'est une dynamique particulière, effectivement, qui est assez exclusive à ce système. On lance... Au moment de l'initiative, uniquement le leader du groupe lance l'initiative et puis il va donner les succès qu'il a obtenus, à ses camarades. Il peut très bien garder un grand nombre de succès pour lui ou être plus altruiste et faire agir les autres avant lui. Évidemment, il y a une conception tactique là derrière. L'idée est que, évidemment, il faut essayer de faire agir en premier, celui qui a un intérêt à agir en premier. Pierre, tu voulais...
Et à la limite, c'est même un jeu dans le jeu.
C'est carrément un jeu dans le jeu, c'est... Oui, effectivement. Alors, Thibaut, qu'est-ce que tu penses des règles du jeu ?
Moi, je les trouve relativement simples. Le seul problème que j'ai rencontré, je vais dire, c'est au niveau des motivations qui, je trouve, sont à la fois trop libres et pas assez libres. C'est-à-dire que, par exemple, on a une motivation personnelle, ça qui est tout à fait légitime. Par contre, quand on arrive à la motivation de groupe, si on fait une table ouverte, ça commence à devenir plus compliqué puisqu'on ne sait pas forcément l'adapter forcément à tous les joueurs. Et il y a une motivation par rapport à un joueur aussi en règle générale. Il suffit que ce joueur-là soit absent pendant 2-3 séances et cette motivation-là est perdue en quelque sorte. Et je trouve que cette motivation devrait plutôt venir plus tard dans le jeu une fois que les liens entre les héros justement se sont vraiment... construite, parce que dès le départ, arrivant en cours de partie, je peux pas dire tiens, je veux que Pierre soit, je ne sais pas moi, la personne que je veux protéger, je la connais pas, je ne sais pas ses motivations, ce genre de choses, donc je ne peux pas directement interagir avec un autre joueur. Je trouve que ça devrait venir un peu plus tard.
Oui, alors ça, c'est clairement l'aspect qui est le plus négatif du jeu. Il est clairement fait pour le jeu en campagne. Pour moi, effectivement, c'est le gros point négatif. On ne peut pas vraiment se dire lundi je vais jouer avec 4 joueurs et puis mardi ou mercredi je vais jouer au même jeu avec 3 des joueurs et puis un 4e. Il n'est pas tout à fait conçu pour ça, donc comme c'est pour ça que je l'utilise, on est obligé de ruser un petit peu, surtout au niveau de cette règle des motivations interpersonnelles dans le groupe. Mais pour un groupe qui va être toujours le même, ça me semble par contre très bien, et en sachant que normalement, la création du groupe de joueurs se fait collaborativement, tous ensemble, au début de la campagne. Thibaut est arrivé après un premier scénario qui a été joué il y a à peu près 2 mois, donc c'est un petit peu différent. Ok, alors donc moi pour ma part, je trouve que le jeu est simple. C'est vrai qu'il est facile à prendre en main, il convient bien à ce que je souhaite maîtriser pour le moment. Le pendant négatif, c'est le nombre de dés qu'il faut lancer, effectivement. Pendant un combat, ça peut être très, 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 très long, quand même. Voilà. Et ce n'est pas nécessairement facile non plus de doser l'opposition pour le maître de jeu. Ce côté maître de jeu, moi, j'avais ce problème-là à la première partie et à la deuxième. Première partie où l'opposition était un petit peu trop faible. Et ici, cette fois-ci, je pense qu'elle était un tout petit peu trop forte ou un petit peu trop résistante.
Trop longue, probablement. Dans la longueur, le problème.
Là, il y a une scène de combat qui a duré un petit peu longtemps.
C'était sympa. Ça restait sympa.
C'est pas de ma faute.
Moi, personne n'a dit le contraire.
J'aimerais revenir sur la motivation par rapport à un autre joueur de la table, parce que dans les règles, ils expliquent ça comme une manière de dynamiser des relations. Et peut-être le problème de ces jeux-là, c'est de voir trop l'aspect technique de ce que tu peux utiliser et d'essayer de jouer plus les motivations comme des choses sociales ou vraiment comme un but. Et là, ça permet peut-être d'un peu plus dynamiser avec le problème de jouer toujours avec les mêmes joueurs, quoi.
C'est clair. Il est prévu dans les règles que, en fait, deux motivations peuvent être contraintes en fait. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si un des joueurs a la possibilité, enfin, a comme motivation de sauver tel autre ou protéger tel autre personnage, il doit le faire. Et s'il ne le fait pas, sa motivation va baisser, va tomber, va diminuer. Tandis que s'il le fait, effectivement, elle peut augmenter. Et à l'inverse, il peut y avoir des conflits de motivation aussi, où donc un joueur va être tiraillé entre deux choses, son désir de se venger, par exemple, et son désir de protéger son compagnon. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas trop joué.
Non, mais il faut prévoir ça un minimum à l'avance. Là, ça devient une complexité dans la création de personnages, où il faut, au niveau de la table, vraiment s'entendre.
Et des scénarios, il faut, voilà, il faut créer exactement. Il faut que le maître de jeu prévoit des situations où spécifiquement ce genre de choses arrivent. Et les forces, et c'est pas facile à forcer, en effet. Voilà. Alors, une dernière question avant de conclure. À qui conseilleriez-vous ce jeu? Donc, est-ce que pour vous, ce jeu est fait bien pour des joueurs et des maîtres de jeu débutants ou confirmés? Quel est votre avis sur la question? On fait le tour de table dans le même sens, Théo?
Ouais, je suis mitigé. C'est-à-dire que l'univers, le jeu fait que, enfin, on aurait tendance à conseiller ça pour un peu tout le monde et des jeunes joueurs qui pourraient s'éclater à jouer des super-héros. Autant parfois la complexité des motivations ou l'utilisation des motivations font qu'il y a besoin au moins d'un MJ expérimenté qui soit capable de planifier ça un minimum. Quoi. C'est-à-dire que le joueur n'a pas forcément besoin d'être expérimenté, mais plutôt dans la préparation, je parle plus que dans l'expérience, d'avoir des joueurs qui savent planifier, et un maître de jeu qui sait planifier une table, et notamment pour la création de personnages. Quoi. Ça, c'est très 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 important.
Comme tu disais, Théo, je pense que le maître de jeu doit avoir une certaine connaissance du jeu. Maintenant, je suppose que s'il a choisi ce jeu, c'est parce que le thème l'intéressait, donc forcément. Peut-être que ce que... Au niveau des règles, c'est très rapide à prendre en main. Peut-être un truc que je reprocherais parce que ça n'a, y a pas un côté sombre vraiment. C'est très lisse, très polissé, très, très propre et gentil.
On est d'accord.
Bon, maintenant, moi, ça me manque un petit peu. Mais
moi, je suis d'accord. Moi. Ça me manque un peu aussi.
Ouais,
un côté un peu... Je trouvais mon personnage trop lisse. Vraiment dans
c'est
la création.
C'est fait pour du ce qu'on appelle en anglais du four color comics, hein, donc du comics en quatre couleurs, donc très effectivement années 70, années 80, avec peu de de dilemmes moraux ou de problèmes de ce type-là. C'est pas là-dessus que l'accent est mis. Je ne sais pas si c'est possible de mettre l'accent là-dessus. Pourquoi pas ?
Dans la contradiction des motivations, tu peux jouer là-dessus. Mais alors, tu dois de nouveau préparer ta table pour que tes joueurs y soient mis. Enfin, tu reviens à cette même dynamique-là.
Tu peux imaginer que les motivations personnelles d'Iron Man, ce serait d'échapper à l'alcoolisme. Hein. Enfin, c'est pas impossible de faire ça avec ce système. C'est le tordre, hein, dans un sens pour lequel il n'est clairement pas fait, mais ce n'est pas impossible. C'est clair que dans les règles, il est précisé par exemple qu'on ne peut pas mourir. Donc en vrai, tu as un personnage qui tombe à zéro en énergie, parce que c'est l'énergie et remplace les points de vie dans ce système, est simplement hors de combat et quand le combat sera terminé, reprendre plus ou moins connaissance et récupérer lentement mais sûrement ses points d'énergie. Donc ce n'est pas... C'est pas un système très méchant, c'est pas le but, je pense, c'est fait exprès. Thibaut, tu voulais dire quelque chose?
En fait, le système, on peut tout à fait l'adapter en étant des super vilains. Hein. Si on veut que ce soit plus sombre, on peut tout à fait
peut-être
dire...
Peut-être pas aller jusque-là.
Mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Une fois qu'on a les mécaniques de jeu, qu'on comprend le truc, si on a envie de rendre ça plus sombre, on n'est pas obligé de jouer Iron Man et compagnie, on peut jouer le Joker, enfin... Laserface et tout, et on peut commencer à...
Le jeu n'est pas prévu. Quand tu ouvres la boîte, c'est pas prévu comme ça. Quand tu ouvres le bouquin, c'est pas prévu.
Non, je pense pas non plus, mais on peut essayer. On essayera. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain podcast. C'est la tentative de jouer les super vilains avec ce jeu. Laurence, tu conseillerais ce jeu à des débutants ou des confirmés ou autres?
Bah, on a joué avec Salomon comme maître de jeu qui a 15 ans. Je me suis bien amusée aussi. Donc oui, je pense qu'on peut le conseiller à, on peut le conseiller à tout le monde.
Alors oui, c'est clair. Ouais.
Moi, le côté lisse, on ne peut pas mourir, on ne peut pas être vraiment méchant, ne me contrarie pas. Je dirais qu'il y a d'autres jeux qui sont faits pour ça et celui-ci peut être vu comme quelque chose de rafraîchissant, quoi.
En même temps, c'est pas une fatalité de vouloir absolument mettre du sombre partout.
C'est à la mode. C'est à la mode, c'est tout. Ça.
Ok, donc moi je pense effectivement comme Laurence, notre fils Salomon qui a 15 ans a maîtrisé ce jeu alors qu'on était en vacances et s'en est très très bien tiré. Et lui s'est pas laissé enfermer dans le système non plus. Il a fait quelques petits trucs très sympas qui nous ont bien plu. Et voilà, à cette occasion, comme moi je connaissais bien le jeu, j'avais maîtrisé déjà une fois au moment où j'ai créé mon personnage, j'avais un petit peu aussi optimisé mon personnage et il donnait quelque chose. Enfin, il y a moyen de faire des héros assez sympas avec même un nombre de pouvoirs assez impressionnant, pour autant qu'on associe ces pouvoirs avec des limitations de capacité à ce moment-là. Mais c'est ce que effectivement Théo a fait avec Hulda.
C'est ce que j'ai fait, parce que j'ai réussi quand même à avoir 5 pouvoirs quoi, pour avoir le truc de base. Mais ça demande, je trouve que c'est pour ça que je parlais de la création de personnages. Le jeu, il se repose de ça. C'est-à-dire sur cette création pour créer la dynamique autour de son personnage. Et la création des personnages en commun pour créer la dynamique autour de la table. Elle est très importante dans le jeu, c'est ça qui fait beaucoup le jeu. Beaucoup plus que dans d'autres jeux.
Oui, d'autres jeux les focalisent plus aussi. Hein. Si on prend Donjons et Dragons, ben là, il y a clairement des rôles qui sont attribués aux classes, qu'ici on n'a pas, puisqu'il y a une grande liberté de création. Oui. Ok.
Je pense que c'est fait exprès pour qu'on ait l'impression de faire partie d'un groupe.
Oui, mais c'est ce côté individuel. C'est le côté tactique et coordonné qu'on parlait dans les lancements d'initiatives. Le jeu, il est fait pour jouer vraiment une table avec une dynamique de groupe. Comme une vraie team de super-héros. Ce côté-là, il est vraiment bien réussi dans ce jeu-là, hein, vraiment de ce côté-là. On est vraiment dedans.
Ok, mais je pense que ça va être le mot de la fin, sauf si un d'entre vous a encore quelque chose à dire.
Attention au chat.
Eh bien oui, il faut faire attention au chat. Merci à vous et une bonne soirée à tous.
Au revoir.